Pour introduire notre sujet, je vous propose de suivre la lecture d'un passage de la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, je lirai au premier chapitre les versets 3 à 9. Et puis après cette lecture, nous recommanderons au Seigneur notre temps ensemble maintenant. Et je demanderai à notre sœur Véronique Jean-Charles de nous conduire dans la prière après la lecture. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, si vous ne le voyez pas, vous mettez votre foi en lui, et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Prions ensemble. À la fin de la série, il faut parler de la fin, de toutes les voies de Dieu, de la fin de cette histoire du déploiement de sa grâce qui nous a occupés dans les séances passées. J'aurais pu intituler la leçon d'aujourd'hui, puisqu'on peut parler de leçon, l'étude que nous faisons de la parole de Dieu ensemble, « Les choses dernières ». C'est un titre qu'on trouve assez souvent dans les manuels de doctrine. J'ai préféré le titre « L'espérance », l'espérance du chrétien, l'espérance de l'Église. Il m'a semblé utile de mettre l'accent d'emblée sur l'attitude, la démarche que le message de la Bible tout entière doit susciter en nous. Nous devons être caractérisés dans tous les pas que nous faisons par l'espérance. Le Dieu que nous servons est appelé le Dieu de l'espérance, et nous sommes des espérants. Il y a un auteur qui dit que, au lieu de dire les croyants, on devrait dire les espérants. Alors bien sûr, il faut dire les croyants, c'est un grand accent biblique, mais la foi et l'espérance sont indissociables dans toute l'Écriture, et si les croyants sont des croyants, ce sont du même coup des espérants. Et puis en mettant l'accent sur l'espérance, nous mettons l'accent sur l'objet de l'espérance. Car l'espérance n'a pas de valeur en soi. Le fait de se porter vers, le fait d'attendre intensément et de disposer toute sa vie en fonction de cette attente, ça n'aurait absolument aucune valeur s'il n'y avait rien à attendre. Ou si ce qui est l'objet de l'attente était sans valeur. Notre espérance n'a valeur qu'à cause de ce que nous attendons, ou plutôt de celui que nous attendons. Il est lui-même, à cause de cela, appelé notre espérance, dans deux passages du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, à deux reprises, dit « Le Christ, l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire », écrit-il aux Colossiens, au chapitre 1er. Et dans les premiers versets de la première épître à Timothée, il dit « Jésus-Christ, notre espérance ». En mettant l'accent sur l'espérance, d'emblée, nous la mettons sur le Christ. Et il y a une formule que j'ai déjà employée ici, parce qu'il y a eu déjà des études sur les sujets concernant la fin. Plusieurs cassettes sont disponibles, d'ailleurs, pour plus de détails qu'aujourd'hui. Mais j'ai déjà utilisé cette formule. Elle m'est très précieuse. Je l'ai recueillie d'un théologien autrefois. Nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. C'est là notre espérance. Nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Alors bien sûr, Dieu nous donne toutes choses avec lui, comme l'Épître aux Romains le souligne. S'il nous donne son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous recevons avec lui aussi toutes choses. Et c'est pour cela qu'il y a des choses à mentionner. Mais au centre, il y a la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, le commencement et la fin. On peut aussi rappeler le monogramme qui sert classiquement à symboliser son nom, les deux premières lettres en grec, et puis il y a comme une suggestion de la forme de la croix. C'est lui qui est notre espérance, le premier et le dernier. Ce qui veut dire que le premier point à mettre en valeur en rapport avec l'espérance du chrétien, c'est qu'il s'agit de sa venue. Nous attendons qu'il vienne. Il vient. Voilà le message. Viens, Seigneur Jésus. Voilà la prière. Maranatha. Ça veut dire notre Seigneur. Viens. C'est dit en araméen. Maranatha. Et il répond. Je viens bientôt, ou je viens promptement, rapidement. Le mot qui est employé peut aussi désigner la manière du retour, dont nous avons l'impression que beaucoup de temps s'est écoulé depuis qu'il a dit « je viens bientôt ». Mais rappelons-nous que c'est aussi la soudaineté avec laquelle ce retour va s'opérer, qui prendra beaucoup d'hommes et de femmes par surprise. C'est sa venue que nous attendons d'abord, qui est aussi appelé son avènement, c'est-à-dire son introduction dans son règne éclatant, je vais y revenir dans un instant, qui est aussi appelé sa révélation ou manifestation. Dans le texte de la première épître de Pierre que nous avons lu, il est question de la révélation de Jésus-Christ, qui est aussi appelé son jour. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour du Christ. Alors je vous signale qu'il y a, là aussi dans le monde des théologiens, des gens qui critiquent les expressions les plus habituelles dans les rangs des chrétiens évangéliques. Très souvent, il est question de cette venue du Seigneur Jésus avec la formule « la deuxième venue » ou « le retour de Jésus-Christ ». C'est le titre, par exemple, d'un livre qui s'est beaucoup diffusé dans le mouvement évangélique francophone de M. René Pache, « le retour de Jésus-Christ ». Et il y a des gens qui critiquent en disant, c'est pas comme ça que la Bible parle. Elle parle de la venue, mais elle ne parle pas de la deuxième venue, elle ne dit pas le retour. Alors certains font simplement cette remarque parce qu'ils ne trouvent pas la formule retour ou deuxième venue. D'autres le font avec une motivation malsaine, je signale. D'autres disent ça parce qu'en fait, ils veulent déconsidérer ce qu'il trouve une interprétation naïve. L'idée que, c'est très simple, Jésus-Christ est parti, comme un voyageur qui va dans un pays éloigné, un homme de haute naissance, pour être investi de la dignité royale, comme Jésus le dit dans une parabole, et puis qu'il va revenir comme il est parti. Que ce sera son retour après que ce fut son départ. Certains critiquent cette façon de voir qu'ils jugent trop naïve. Alors, il faut répondre à cette critique. J'essaie de le faire brièvement. D'abord en disant, certes, il n'est pas habituel dans le Nouveau Testament de parler de deuxième venue ou de parler de retour du Seigneur, mais il y a au moins deux passages qui nous autorisent à le faire, qui nous autorisent parfaitement à le faire. Dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, Jésus dit qu'il part, et le cœur des disciples est rempli de tristesse, parce qu'il leur dit son départ, il va au Père. Il ne les laissera pas orphelins, mais il part. Mais il dit, je reviendrai vers vous. ou littéralement dans l'original, je viendrai de nouveau vers vous. Il y a l'adverbe de nouveau qui est utilisé dans l'original et qui nous permet de dire, deuxième venue, c'est dans l'ordre. Et dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, et au verset, attendez, je retrouve le verset 28, il est dit qu'il paraîtra une deuxième fois. Là aussi, c'est tout à fait explicite. Oui, une question ? Alors, effectivement, les anges disent qu'il viendra de la même manière qu'il est parti, mais c'est pas reviendra dans ce passage. Je suis bien d'accord que comme il est souligné que c'est de la même manière qu'il est parti, que vous l'avez vu monter au ciel, littéralement. Pour cette raison, on peut tirer de ce passage vraiment la pensée du retour. Mais ceux qui ergotent, vous voyez, disent, le texte, on passe simplement le verbe venir dans ce passage du premier chapitre du livre des Actes. Voyez. C'est pour ça que je ne le citais pas, mais vous faites bien de le citer quand même. Donc, nous avons parfaitement le droit, avec ces deux passages que j'ai cités, et un passage comme le premier chapitre du livre des Actes, de parler de retour du Seigneur, de deuxième venue du Seigneur. Et en accompagnant cette affirmation d'une pleine assurance quant au sens tout à fait littéral, concret de ce retour. Ce n'est pas un vague symbole pour nous dire que finalement le souvenir de Jésus subsistera ou que son influence se gagnera. C'est vraiment, comme on le comprend naïvement, il faut avoir, je dirais, le courage, la simplicité et je crois la sagesse de la naïveté en pareille affaire, c'est tout à fait comme le texte nous le suggère, un retour personnel dans son corps, comme il est monté au ciel dans son corps ressuscité, il reviendra corporellement, il sera visible, tangible parmi nous. C'est cela qui est l'attente de l'Église, c'est cela qui est l'espérance du chrétien. Il faut ne pas se laisser ébranler par qui que ce soit, il faut l'affirmer très tranquillement. Mais une fois qu'on a bien dit ça, et c'est tout à fait central, voilà notre attente, le Seigneur Jésus dans sa venue, il faut essayer de réfléchir à ce que remarquent donc les objecteurs. Pourquoi est-il si rare que le mot de retour soit employé ? Pourquoi est-ce généralement le terme de venue simplement qui est employé ? Je crois que je vais trouver la raison. Je pense que la raison, c'est que tout l'accent doit porter sur sa présence. Le mot venu, d'ailleurs, vient du verbe être dans le grec, dans l'original du Nouveau Testament. C'est sa présence. S'il vient, et c'est ça qui doit nous importer suprêmement, qu'il soit là. Ce n'est pas le calendrier, ce n'est pas les schémas, je vais faire des schémas, mais ce ne sont pas les schémas qui doivent compter pour nous suprêmement, mais c'est la pensée qu'il sera là. Que, alors que nous devons dire que nous sommes loin du Seigneur dans la chair, il est au ciel, nous sommes sur la terre, et nous pouvons avoir l'assurance qu'il sera avec nous, que nous serons avec lui, dans la plénitude de sa présence. C'est cela qui est le cœur de notre espérance. Voir mon Seigneur face à face, voir Jésus dans sa beauté, être toujours avec lui. Ce sont ces expressions qui sont caractéristiques de l'espérance du chrétien. Et nous ne devons jamais l'oublier. Nous ne devons jamais nous laisser distraire de cette centralité de sa personne. C'est elle qui nous importe le plus. L'espérance est indissociable de la foi, et je dis il y a quelques instants, mais elle est aussi indissociable de l'amour. Nous ne le voyons pas encore, et nous l'aimons, dit le texte de la première épître de Pierre. Mais parce que nous l'aimons, nous voulons le voir. Parce que nous l'aimons, nous voulons être vraiment avec lui, en sa présence. Et l'apôtre Paul, à la fin de la première épître aux Corinthiens, dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème, maranatha. Vous voyez, il conjugue précisément ces deux thèmes. C'est notre amour du Seigneur Jésus qui nous fait aimer son avènement, qui nous fait désirer ardemment, qui nous fait penser à sa venue. Voilà, me semble-t-il, ce qui est central dans l'espérance chrétienne. Mais alors, toutes choses nous sont données avec lui. Alors, deuxième volet dans notre étude, qu'apporte-t-il avec lui? Quels sont les éléments clés qui s'associent à sa venue? Toutes choses, eh bien, ça ferait un très long catalogue, toutes choses avec lui. Je vais simplement sélectionner trois grands axes qui me paraissent les axes principaux de ce que nous attendons, qui est l'objet de notre espérance, avec lui, à partir de lui. Alors le premier axe, c'est celui de la vie. Le Christ est aussi appelé notre vie, et lorsqu'il paraîtra, ce sera la pleine victoire de la vie. La manifestation que la mort est vaincue. Il a vaincu la mort. Il est le vivant au siècle des siècles qui ne meurt plus. Et son retour, sa venue, ce sera la communication à tous les siens de sa victoire sur la mort. La mort sera vaincue. C'est le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Cela veut dire que tous ceux qui sont décédés ressusciteront, c'est la résurrection, et que ceux qui sont encore vivants de cette vie terrestre, déjà gagnés par la mort, déjà grignotés par la mort, seront transformés en vie pure, vie triomphante et resplendissante. C'est le triomphe de la vie, parce que Jésus-Christ est le vivant, qui est le premier grand axe. J'ai pensé, vous savez que je cherche des petits dessins, à l'image de la germination. Une belle plante qui, à partir d'une semence obscure, germe. C'est une image du Seigneur Jésus lui-même. Il a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, il ne porte pas de fruits. Il a comparé lui-même sa mort et sa résurrection, sa victoire sur la mort, donc, à la germination du grain de blé. Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul fait de même pour expliquer la résurrection. Il la compare à la germination d'une semence. Donc, on dit ça pour évoquer ce premier axe principal. C'est la vie qui nous sera donnée en plénitude lorsque le Seigneur Jésus reviendra, jusqu'en notre corps qui sera transformé de ce corps d'humiliation soumis à la mort qui est le nôtre aujourd'hui en un corps semblable à son corps glorieux, pleinement vivant. Alors, il y a deux éléments de doctrine plus particuliers à propos de ce premier point que je rappelle aussi. Et il y a d'abord la doctrine précieuse que l'Écriture nous permet aussi d'établir sur ce qui est le sort, la condition des chrétiens avant la résurrection, mais après la mort du corps. Étant donné que la victoire entière sur la vie, ce sera quand le Seigneur Jésus reviendra et que les morts ressusciteront et recevront un corps semblable au sien, alors qu'en est-il de ceux qui étaient nos frères et sœurs et qui nous ont quittés? Qu'en sera-t-il de nous si le Seigneur n'est pas revenu au moment de la mort? L'Écriture nous permet de répondre qu'il y a comme une antichambre de cette victoire pleine sur la vie, de la vie sur la mort, qui sera l'événement de la résurrection. Ceux qui meurent dans le Seigneur sont heureux dès à présent. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Sans avoir encore le corps de résurrection. C'est pour ça que, pour eux aussi, ils espèrent encore, leur regard se porte vers l'avant, sans avoir encore le corps de résurrection, ceux qui sont morts en Christ connaissent en sa présence déjà une plénitude de vie spirituelle. C'est déjà la vie. Ils ont reçu la vie par la foi dans cette existence, et lorsque ils se détachent du corps, ils sont en la présence du Seigneur Jésus et ils vivent en plénitude, sauf pour le corps, puisqu'ils n'ont pas encore le corps de résurrection. Mais voilà la doctrine de l'état intermédiaire. Ils vivent avec le Seigneur Jésus-Christ, et c'est de beaucoup le meilleur, dit Paul. C'est de beaucoup meilleur à notre vie présente. Il explique cela dans sa lettre aux Philippiens. Mais ce n'est pas encore le terme de l'espérance. C'est pour cela qu'il n'en est pas question dans un très très grand nombre de passages. La victoire pleine sur la vie doit inclure aussi notre corps. Et puis, c'est sans doute cette pensée-là qui peut nous aider à comprendre le deuxième élément particulier que je mentionne. Ceux qui sont morts dans l'incrédulité, sont morts impénitents, ne se repentant pas, ils ressusciteront aussi, d'après le Nouveau Testament. Il n'y a pas beaucoup de textes qui en traitent, mais il y a quelques passages qui nous montrent qu'ils ressusciteront aussi. Alors, ils ne ressusciteront pas en Christ. Ils n'auront pas un corps semblable au sien, mais ils auront un corps qui ne nous est pas décrit. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Et les uns ressusciteront pour la vie éternelle, la gloire avec la présence du Seigneur, mais les autres ressusciteront pour le jugement. Parce que l'homme n'est pas entier sans son corps, et qu'il faut que cette créature en image de Dieu assume sa responsabilité, à toujours devant Dieu, parce qu'il a été créé comme un esprit en image de Dieu pour exister toujours. Alors Dieu a voulu que même ceux qui ne sont pas au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ, qui l'ont refusé, ressuscitent dans un corps qui soit adapté à la situation qui sera la leur. Et cela nous introduit alors au deuxième grand élément associé à la venue de Jésus-Christ, le jugement. Le jugement, il vient pour juger les vivants et les morts. C'est ce que dit le symbole des apôtres, hein, comme on l'appelle. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Mais c'est aussi dans le Nouveau Testament. Jésus est appelé celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, au chapitre 4 de la première épître de Pierre, au verset 5. Alors, je représente le jugement sur mon schéma, non pas par une balance, non pas par un glaive, comme on représente si souvent la justice, mais vous connaissez, je pense, ce que je dessine. Bon, si j'avais fait le dessin comme au temps biblique, j'aurais plutôt fait des rouleaux. Mais j'ai dessiné, vous reconnaissez, deux livres. Et je crois que ce qu'il faut bien comprendre à propos du jugement qui est annoncé, et ce qui apparaît très clairement à la fin du chapitre 20 de l'Apocalypse, c'est la dernière partie du chapitre 20 de l'Apocalypse, c'est que le jugement représente l'ouverture de deux livres, pas un seul, mais deux livres. Ça, c'est la clé pour la compréhension du thème biblique du jugement. Le premier livre, c'est le livre de tout ce que les hommes ont fait. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Tout ce que les hommes ont fait, rien n'est oublié. Je me disais, il y a une illustration, il paraît que les informaticiens chevronnés, quand vous avez effacé quelque chose par erreur, par mégarde ou volontairement dans votre ordinateur, il paraît qu'ils sont capables de tout récupérer quand même. Que les spécialistes de la police, justement, travaillent sur les ordinateurs comme ça. C'est une illustration. Une illustration. L'informaticien divin, il est capable de tout faire apparaître. Tout ce qui s'est fait. Et jusqu'aux actes secrets qui sont restés dans notre cœur. Parce qu'il y a des actes aussi, des complaisances, des pensées que nous avons mûries, tout cela doit venir à la lumière. C'est le premier principe du jugement. Que ces choses qui sont restées dans le clair-obscur, dans le brouillard, que laisse la patience de Dieu dans ce monde aux apparences trompeuses, que tout cela vienne à la lumière. Et ça vaut aussi pour les œuvres des chrétiens. C'est dit aussi pour les œuvres des chrétiens. Et ce serait terrifiant s'il n'y avait que ce seul livre. Ce serait terrifiant et désespérant, parce que si c'était seulement sur la base des œuvres que nous étions jugés, aucun de nous ne pourrait s'en tirer. Ce serait plus ou moins pire, mais aucun de nous ne pourrait. Parce que nos œuvres, les meilleures, nos actes de justice, dit le prophète Ésaïe, sont comme des linges souillés aux yeux de Dieu. Donc, aucun de nous ne serait sauvé si avec un seul livre. Mais le texte de l'Apocalypse, qui nous dit que le jugement a lieu, les livres sont ouverts sur la base des œuvres, nous dit aussi que ce sont ceux dont le nom n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie, l'autre livre, qui sont jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. À savoir qu'il y a un autre livre qui est celui de l'inscription parmi ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, le livre de vie. Pour le salut ou pour la perdition, c'est ce livre-là qui compte. Nos œuvres nous condamnent. Mais si nous avons reçu comme un cadeau pur de la part de Dieu, la justice de Christ, l'effet de son sacrifice pour nous, alors nous sommes inscrits sur le livre de vie et nous serons reçus dans la vie. Et même nos œuvres imparfaites, nos œuvres de chrétiens qui ne pourraient pas nous valoir le salut, à les considérer en elles-mêmes, Dieu se plaira à en combler les déficits, oui, à faire passer sur elles la justice même de Christ pour pouvoir les recevoir et pour pouvoir nous donner des récompenses de pure grâce, hein, par pur amour pour nous. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Nous allons recevoir des récompenses en fonction de nos œuvres, bien qu'elles soient imparfaites, parce que nous sommes enveloppés, couverts de la grâce de Dieu et de la justice de Jésus-Christ. Voilà le principe du jugement. Et puis le troisième grand thème, c'est le thème du règne. Jésus-Christ est manifesté, c'est son avènement comme le roi. Et le retour de Jésus-Christ, c'est que ton règne vienne. C'est la manifestation de sa royauté. Comment est-ce que je vais le représenter ? Vous reconnaissez notre monde, dans quel état se trouve-t-il? Le sang qui coule, toutes les horreurs, les explosions, les feux, les guerres, la corruption, c'est ça l'état présent de notre monde, où le prince de ce monde, bien qu'il soit bridé, parce qu'il est déjà vaincu, agit encore terriblement parmi les rebelles, les fils de la rébellion. Qu'est-ce que le règne de Dieu ?
Le règne de Dieu,
cette plénitude, la connaissance de l'Éternel, la connaissance du Seigneur qui remplira la terre. Je le symbolise par ce bleu du ciel, ce bleu de la connaissance du Seigneur qui, comme les eaux de la mer, couvriront absolument toute la terre. Voilà la pensée du règne qui vient, qui nous est promis dans cette terre renouvelée où la justice et la paix habiteront d'une manière parfaite. Voilà le troisième grand thème, vie, jugement, règne, associé à la venue de Jésus-Christ. Mais alors maintenant, les points de controverse, déroulement. Le déroulement, vous avez plusieurs schémas, et ils se trouvent tous, tous ceux que je vais présenter, parce qu'il y en aurait peut-être d'autres encore, mais ceux-là, nous ne les considérons pas, ils se trouvent tous présents parmi des chrétiens évangéliques. Et cela veut dire que nous ne devons pas mépriser, lancer l'anathème sur ceux qui adoptent un autre schéma que celui qui nous paraît le meilleur. Je vais vous dire celui qui me paraît le meilleur, mais en même temps, je veux quand même faire apparaître qu'il y a diverses options sur ce point et que cela n'est pas interdit dans notre Église, qu'il y ait diverses options à ce propos. Notre confession de foi n'exclut pas certains de ces schémas. Il y a le schéma classique qui est représenté par les grands docteurs de la Réforme, par exemple. Et c'est celui que j'ai adopté, je crois, que la plupart des pasteurs qui se sont succédés depuis pas mal de décennies dans notre Église ont adopté aussi ce schéma. Je commence par lui, parce que c'est le schéma classique. Il y a l'histoire, tout le verset, que nous connaissons, un paroxysme de mal avec l'Antichrist, mais aussi, en tout cas, c'est ce que pensent la plupart, une conversion d'Israël à la fin de cette période. Et puis, il y a la venue du Seigneur. La venue du Seigneur. Nous sommes enlevés à sa rencontre au moment où il descend du ciel pour se manifester glorieusement. L'Église est enlevée donc à sa rencontre avec tous ceux qui sont morts en Christ qui ressuscitent et il descend sur la terre. C'est le jugement, l'établissement du règne avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et aussi dans les ténèbres du dehors, le châtiment de ceux qui n'auront pas été trouvés inscrits sur le livre de vie. Ça, c'est le grand schéma, donc nouvelle création, avec la nouvelle terre où la justice habitera, que nous attendons, selon la seconde épître de Pierre, chapitre 3. C'est là le schéma classique, c'est le plus simple aussi, qui est celui que je crois personnellement le mieux bâti sur les textes bibliques, mais ce n'est pas le seul et il est juste que je vous présente les autres. Il y a ensuite celui du prémillénarisme classique. Il est encore classique, il est attesté dès le deuxième siècle, parmi certains pères de l'Église du deuxième siècle. En fait, mon père, par exemple, l'avait enseigné pendant toute une partie de son ministère, vers la fin de son ministère, comme moi j'avais été convaincu par le premier. Il a réétudié la question et il est venu à peu près à cette position lui aussi. Mais disons, pendant tout un temps, il avait enseigné ce prémillénarisme classique. C'est à peu près la même chose jusque-là. Donc, l'histoire, Antichrist, conversion d'Israël, retour du Seigneur avec l'Église qui est enlevée à sa rencontre. Mais, à ce moment-là, tous ne ressuscitent pas. C'est la première résurrection seulement. Il y a 1000 ans d'un règne de Jésus-Christ sur la terre non renouvelée, qu'on appelle le millénium. Et on dit donc pré-millénarisme parce qu'on pense donc que Jésus-Christ revient avant ce millénium, c'est une certaine lecture d'Apocalypse 20, première partie, qui est ici en cause, les 1000 ans dont il est question dans Apocalypse 20. Donc un règne de Jésus-Christ déjà revenu sur la terre, qui est le millénium, et puis une grande révolte à la fin, le jugement dernier et la deuxième résurrection à la fin de cette période de 1000 ans, disons, en gros, symboliquement, et puis seulement à ce moment-là, donc, nouveaux cieux, nouvelle terre. Ça, c'est le schéma du prémillénarisme classique. Quelqu'un qui est resté prémillénariste classique avec ce schéma-là jusqu'au terme de sa vie, c'est un homme que nous avons beaucoup aimé au tabernacle et qui a été très respecté dans tout le mouvement évangélique francophone. J'ai fait mon catéchisme avec lui, etc. Je lui dois beaucoup. C'est Monsieur Jules Marcel Nicole, le professeur Jules Marcel Nicole. adhérait à ce prémillénarisme classique. Vous voyez ? Je vais changer de couleur, mais ça n'a pas de signification. C'est pas simplement que mon feutre est moins efficace. Troisième position, le prémillénarisme dispensationaliste. Que par exemple représentait M. Pache. Bon, il y a des variantes, etc. Alors là, vous avez le même développement jusqu'à un certain point, l'histoire qui continue dans laquelle nous sommes, mais l'enlèvement de l'Église avant le retour du Seigneur, le temps de l'Antichrist, après, pour certains c'est au milieu, pour M. Pache c'est au milieu, donc il y a une première résurrection ici, il y en a en fait une première résurrection bis, il y en a pratiquement trois. Le millénium pour les Juifs et la situation de l'Église pendant ce millénium pour les dispensationalistes n'est pas très clairement indiquée. Certains pensent qu'ils ne sont même pas sur la terre, les chrétiens, que l'Église est comme dans une cité satellite qui tourne en orbite autour de la terre sans être sur la terre. Parce que l'idée clé du dispensationalisme, c'est la séparation entre l'Église et Israël. Donc c'est pour les Juifs seulement qu'est le millénium. L'Église, elle est quelque part ailleurs. Bon, certains la mettent quand même sur la terre, mais séparément. Et puis alors, le jugement dernier, l'état final, et même dans l'état final, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, certains continuent de séparer Israël et l'Église. Ça, c'est la troisième option. Je ne crois pas que cette doctrine ait jamais été enseignée dans sa pureté au tabernacle. Je ne pense pas qu'elle ait jamais été enseignée telle qu'elle. Bien que je pense que ma grand-mère avait quand même quelques inclinations dans ce sens. Madame, donc, Arthur Blocher, mais il y a longtemps, je pense que ce n'est pas son souvenir de beaucoup parmi nous. Et puis finalement, il y a le post-millénarisme évangélique. Il y en a aussi sous d'autres formes libérales, mais post-millénarisme avec un représentant aujourd'hui comme le pasteur Pierre Courtial, avec qui j'ai longtemps collaboré pour la revue Ictus. Pour eux, l'histoire est comme ça, bien sûr, encore, mais il va y avoir règne de Jésus-Christ. Alors pas présent corporellement, mais règne de Jésus-Christ par son esprit, un royaume de paix et de justice sur la terre, avant le retour de Jésus-Christ. La conversion d'Israël, pour ceux qui, en tout cas, l'admettent dans cette théorie, se situerait plutôt là. Et le retour de Jésus-Christ n'intervient qu'après. On pourrait le mettre en pointillé presque parce qu'il a relativement moins d'importance, ce retour personnel et corporel, puisque son règne était déjà avant. Et puis, à partir de là, alors, vous avez le jugement et l'état final. Ce sont ceux-là, les quatre schémas principaux. Alors, je ne vais pas développer d'arguments. De toute façon, nous avons commencé avec un peu de retard, mais je ne veux pas dépasser les midi et demi. Donc, sachez qu'il y a ces points de différence entre les lectures de l'Écriture chez les chrétiens évangéliques. Celle-ci est celle qui a été la moins représentée parmi nous, qui présenterait à mes yeux le plus de difficultés, mais quelqu'un qui y adhérerait ne serait quand même pas réprouvé parmi nous. Sachez-le. Si vous avez des questions supplémentaires, bien la fois prochaine, vous pourrez venir aussi avec vos questions. Mais je viens au dernier point que je voulais, dernier volet que je voulais présenter ce matin, les fondations de notre assurance. Notre espérance n'est pas une vague espérance, peut-être ben oui, peut-être ben non, nous espérons que ce sera comme ça, mais bon, nous ne pouvons pas en être sûrs. Notre espérance, c'est une espérance pleine d'assurance, avec une joie indicible et glorieuse, comme dit l'apôtre Pierre dans sa première épître. Quels sont les fondements de l'assurance? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « je suis assuré », il faut que ça repose sur quelque chose. Je pense qu'on peut dire qu'il y a trois fondements qui méritent en particulier d'être soulignés maintenant. Le premier, c'est la victoire déjà acquise sur la mort. Et la mort, c'est le dernier ennemi pour tout homme aussi. C'est la mort finalement qui détermine le sens de la vie humaine ou le non-sens de la vie humaine si tout se termine par la mort. La victoire sur la mort est acquise. Des témoins dignes de foi ont vu le Seigneur Jésus qui avait été mis au tombeau mort, ont vu le Seigneur Jésus ressuscité, vivant. Ils ont parlé avec lui, ils ont mangé et bu avec lui. Et ces témoins sont dignes de foi. L'événement de la résurrection, sans lequel notre foi est vaine, sans laquelle il ne s'agit plus que de contes de fées, ça vaut rien. L'événement de la résurrection est le fondement de l'assurance de notre foi et de notre espérance simultanément. Si le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité, alors évidemment il va venir, il va manifester la vérité de sa victoire. Ça c'est le premier fondement. Deuxième fondement, l'ensemble des promesses prophétiques déjà tenues, dont nous pouvons repérer dans l'histoire la réalisation. Cela nous donne de l'assurance pour celles qui ne sont pas encore réalisées, de voir que Dieu a tenu parole là. Certes, les prophéties ne sont pas toujours très faciles à interpréter, mais quand on prend les choses globalement, alors il y a toutes les prophéties qui concernaient la première venue de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, et on a, c'est déjà saint Augustin et déjà Pascal qui l'ont fait remarquer, Dieu a fait en sorte que ces prophéties soient conservées par ceux-mêmes qui refusent de voir qu'elles se sont accomplies. Les juifs incroyants en Jésus ont été les libraires de l'Église, les bibliothécaires de l'Église. C'est eux qui ont conservé les documents. Alors on ne peut pas dire ces documents ont été falsifiés, ils ont été tripatouillés pour montrer qu'ils prédisaient Jésus, puisque justement ce sont les juifs qui refusent de reconnaître Jésus qui les ont gardés. C'est une disposition admirable de la sagesse de Dieu dans l'histoire. Il a permis cette incrédulité qui permet, d'autre part, de montrer que c'est un grand prodige de prédiction précise et détaillée à l'avance du Seigneur Jésus qui a eu lieu. Donc nous pouvons nous appuyer sur ces prophéties qui se sont réalisées avec la première venue. Et puis il y en a d'autres qui se sont réalisées depuis la première venue de Jésus-Christ. C'est quand même des choses que l'on peut aussi mentionner. Il y a la croissance de l'Église. Mais pensez qu'au premier siècle, quand Jésus dit que la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, que l'histoire de la femme qui a cassé la fiole de parfum sera dites comme un témoignage pour toutes les nations, mais ça paraît fou. Quelques individus dans ce petit coin de l'Empire romain, et cela s'est réalisé. Cela, en effet, s'est produit. Il y a aussi le fait que le monde a continué de se corrompre et que les guerres n'ont jamais cessé jusqu'à ce jour. Combien d'utopies, combien de gens qui à travers les siècles ont prétendu que grâce au progrès, tout cela allait être effacé, etc. Le Seigneur nous a dit le contraire, et c'est le contraire qui se réalise. Et puis, il y a la permanence d'Israël. Là aussi, c'est contre toute probabilité historique. Tous les autres peuples de l'époque, mais ils ont été dissous, noyés, leur identité ne se repérerait plus dans l'histoire. Mais l'identité d'Israël, qui est une identité mystérieuse, parce que c'est pas seulement une affaire de race. Il y a eu aussi beaucoup de peuples prosélytes. Cette identité mystérieuse, marquée du signe de Dieu, elle persiste jusqu'à nos jours. Donc il y a toutes ces prophéties. Et puis troisième grand panneau, il y a l'expérience déjà goûtée. Le passage de l'épître de Pierre dit « Vous obtenez, pas vous obtiendrez ».
vous obtenez le salut, aboutissement de votre foi. Nous goûtons déjà les arts ou les prémices, les premiers fruits de ce qui est à venir. L'espérance n'est pas simplement quelque chose pour l'avenir. Il y a un début, une amorce et un dynamisme de la réalisation qui est déjà en cours dans notre vie. Notre expérience chrétienne, c'est l'acompte de ce qui va nous être donné. Et notre espérance va de ce que nous avons déjà reçu à ce que nous allons recevoir. Ce n'est pas du vide à quelque chose d'autre, c'est de ce que nous avons déjà reçu du Seigneur, auquel nous sommes unis par son esprit dès le temps présent, qui est présent par son esprit, même s'il est absent de corps. À ce moment où la présence sera totale, où il sera présent corporellement et sans aucun voile de péché. Voilà notre espérance, l'espérance du chrétien, l'espérance de l'Église. Voilà, c'est juste l'heure. Je crois que je vais laisser les questions, puisque c'est l'heure, à la fois prochaine, en vous invitant éventuellement, donc, si vous le souhaitez, à les rédiger, à me passer un petit bout de papier. Merci. Le Seigneur vous bénisse tout au long de cette semaine.